À mon avis, le tour d'horizon était de plusieurs heures, certes, mais cette rencontre reste somme toute modeste par rapport au sujet d'actualité, si j'ose dire, et au contentieux entre guillemets entre les deux grandes puissances. Parce que cette situation dure depuis des années, depuis même avant Trump. Mais il suffit de parler des années de Trump pour constater une dégradation gravissime des relations entre les deux pays. Et surtout, on sent que la pression montait crescendo au point que certains commentateurs parlaient carrément d'une éventualité de déclenchement je dirais presque d'un conflit mondial. À un moment donné, certains ont osé s'aventurer sur cette hypothèse, même si les deux pays restent quand même assez bien contrôlés et ils savent quelles sont les limites à ne pas franchir parce que personne n'a envie de rentrer dans un conflit, je dirais, inconsidérable. En revanche, ce tour d'horizon a permis aux deux présidents d'avoir un peu de recul et surtout, peut-être, à mon sens, de se mettre d'accord sur des étapes, c'est-à-dire continuer d'avoir des contacts au quotidien et examiner les sujets les uns après les autres afin de pouvoir aboutir à une désescalade sur toutes les scènes où les deux puissances pourraient être confrontées les unes aux autres. Le terrain syrien en fait partie, mais il y en a d'autres, hein. Vous avez la Libye, vous avez l'Afrique, vous avez la question, si j'ose dire, de relations avec l'Iran. À chaque fois qu'il y a un terrain de jeu, si j'ose dire, il y a un sujet de conflit et chacun essaye de préserver ses acquis stratégiques et même en gagner d'autres. Regardez voir ce qui se passe dans les anciens pays de l'Est. On a parlé par le passé de la Géorgie, on parle de l'Ukraine, on parle de la Crimée, mais on peut parler des missiles en Pologne, on parle de l'extension de la force stratégique dans l'ensemble de l'Europe. Au point de considérer que maintenant que la frontière avec les anciens pays de l'Est constitue actuellement un véritable front direct entre l'ancienne Union soviétique, en l'occurrence la Russie d'aujourd'hui, et l'OTAN. D'ailleurs, les déclarations des responsables de l'OTAN jusqu'à présent n'étaient pas rassurantes. Par conséquent, évidemment, il fallait revenir sur des bases raisonnables et ce tour d'horizon, si j'ose dire, a permis à chacun de parler probablement à cœur ouvert et dire personne ne cherche le conflit, par conséquent, faisant chacun une marche arrière, et puis à partir de ce jour, on commence à discuter des sujets des uns après les autres. C'est-à-dire la rencontre qui a eu lieu n'a pas réglé les conflits, n'a pas traité radicalement la question syrienne ou la question des rapports avec l'Iran ou du nucléaire iranien, n'a pas traité le problème de l'Afghanistan, n'a pas traité le problème de la Libye, n'a traité aucun problème parce que le temps est très court. En 4 heures ou 3 heures ou même 5 heures, vous ne pouvez pas traiter même pas un sujet de tous ces sujets-là parce qu'il y a des enjeux stratégiques, il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux militaires, et il y a des enjeux par rapport aux bases militaires des uns et des autres. Des capacités militaires déployées pour chacun, c'est-à-dire c'est quelque chose nécessite non seulement des discussions politiques, mais également des discussions entre les services de renseignement, entre les affaires étrangères, entre les militaires. Toutes ces questions-là, évidemment, ne pouvaient pas être abordées, mais à mon sens, le premier jet a été lancé pour commencer des discussions, et je pense qu'ils se sont promis que s'il y a le moindre couac, bon, on s'appelle sur nos lignes respectives pour en parler. Mais ça, c'est mon humble avis. Il n'y a pas eu d'accord sur un quelconque sujet. Il y a eu une ouverture de discussion ou de dialogue avec une idée en filigrane qui est celle d'une désescalade sur tous les fronts. Et après, nous verrons au cours des prochains mois et voire au cours des prochaines années comment cette rencontre va se traduire, à travers des actes et à travers une multitude de concertations et même à travers les institutions internationales, que ce soit l'ONU, le Conseil de sécurité, les déclarations de l'OTAN, le G8, peut-être le retour de la Russie, parce qu'on oublie que la Russie a été exclue par l'effet d'une décision des Américains notamment, mais avec la participation des Européens en disant qu'il fallait les sanctionner en raison de leur position sur tel ou tel thème, et plus particulièrement par rapport aux anciens pays de l'Est, alors que la Russie, par rapport à cette question-là, me semble-t-il, ne faisait que préserver ses intérêts, parce que quand vous vous approchez trop de la porte d'entrée d'un grand pays tel que la Russie, évidemment, celle-ci ne pouvait pas rester sans réponse. Et elle a en conséquence pris un certain nombre de mesures qui peuvent déplaire ou qui pourraient déplaire à certains pays, y compris aux États-Unis, mais chacun de son côté protège ses intérêts comme il les voit et comme il les entend. La désescalade, ce n'est pas par le maintien des forces américaines dans la région. Au contraire, la désescalade serait par le retrait américain et en même temps le retrait des forces russes qui sont présentes sur place. C'est-à-dire, on revient à la position antérieure où il n'y avait pas autant de bases russes dans la zone, autant de militaires russes, autant de déploiements militaires russes sur zone, comme on dit, que ce soit en mer, que ce soit en territoire syrien, mais en parallèle, évidemment, il y aurait, à mon sens, un retrait américain que j'envisage, moi, relativement rapidement, parce que aujourd'hui, comme je l'ai annoncé suite à l'assassinat du général Soleimani, la question aujourd'hui n'est plus une question de présence ou pas, c'est une question de temps de présence, c'est-à-dire le retrait est assurément fait, ou en tout cas sera assurément fait, mais la question, ça sera une question de temps, c'est-à-dire est-ce que ça serait quelques semaines ou quelques mois, mais ça ne sera certainement pas quelques années, parce qu'il y a une décision qui a été prise au sein de l'axe de la résistance, et en filigrane, les Russes ne sont pas en désaccord par rapport à cette décision qui a été prise. Vous avez assassiné un tel responsable qui avait un caractère politique et militaire au niveau de l'Iran, mais au niveau de l'ensemble de l'axe de la résistance, parce que sa personnalité dépassait et de loin l'Iran en tant que pays ou en tant qu'entité, c'est devenu un personnage symbolique qui est symbolique, y compris pour les Palestiniens, pour les Libanais, pour les Syriens, pour les Irakiens, pour les Iraniens. Regardez voir ses faits d'armes, regardez voir ses exploits militaires, mais regardez voir aussi ses exploits politiques, là où il a changé les règles du jeu. Et c'est-à-dire, il fallait donc, en riposte, ne pas se contenter de dire, eh ben, on a tué un général iranien, ben, on va tuer un général américain ou occidental ou que sais-je. Je l'ai dit dès le premier moment où malheureusement cet assassinat a été annoncé. Pour moi, c'était la fin de la présence américaine parce que c'était la seule riposte qui vaille en réponse à cet acte abject, criminel au demeurant, mais également sur le plan politique, était d'une stupidité, je dirais, inégalable. Et voilà, aujourd'hui, les Américains sont obligés de négocier ce départ, mais en même temps, ils essaient de négocier d'un côté avec les Russes, mais en parallèle, ils négocieront la question avec les Iraniens et avec les Irakiens, c'est-à-dire avec les Iraniens en direct, pour dire, bah, maintenant, on va sortir, on va se retirer, mais comme les Israéliens, quand ils sont retirés de Beyrouth, ils criaient au secours en disant « Ne nous tirez pas dessus parce qu'on va se retirer ». Et les Américains sont en train de crier au secours « Ne nous tirez pas dessus parce qu'on va préparer notre départ, mais il faut que ça se fasse selon des phases de retrait militaire, comme il se doit, au lieu de partir à la cloche du bois, comme on dit en français, c'est-à-dire du jour au lendemain, il n'y a plus de présence. Et derrière, il y aurait probablement, en tout cas dans l'esprit des Américains, le chaos ».